ordinaire aux politiques et ethnicité chez les jeunes, le cas des jeunes des quartiers populaires, et puis une seconde communication, celle de Raphaël Chalier, qui appartient au CRESPA GTM, au laboratoire, et sa communication s'intitule « Communiste sans en avoir l'air, politisation, dépolitisation et distance aux normes militantes chez les jeunes communistes en banlieue ». On va voir ces deux communications qui, a priori, n'ont pas beaucoup d'analogies, mais en réalité, on peut trouver des points communs à ces deux communications. Donc, je vais laisser les deux intervenants s'exprimer. Ensuite, je vous donnerai la parole. Et puis, s'il y a besoin pour lancer le débat, je poserai une ou deux questions plus générales. Camille, c'est à vous.
Merci. Donc en fait, je voudrais vous parler d'une enquête qui est en cours et qui se développe dans le cadre, enfin qui s'est développée dans le cadre d'un projet ANR sur la réanalyse. Alors la réanalyse, c'est le fait de récupérer des enquêtes qui ont été faites soit par soi-même et soit par d'autres chercheurs. Hein, l'idée, c'est aussi de travailler sur les enquêtes des autres et de retravailler à la fois sur comment les données ont été produites, mais aussi de retravailler sur les données en elles-mêmes. C'est-à-dire que ça permet notamment de faire des enquêtes qui ont une profondeur historique qui n'est pas possible quand on utilise des données qualitatives la plupart du temps. Et en fait, c'est un type de méthode. Bon, peut-être que celle que vous connaissez plus, c'est la revisite, qui à certains égards est une forme de réanalyse, mais qui est plutôt utilisée en anthropo. Et puis dans ces cas-là, on retourne sur le terrain pour voir comment les choses ont évolué au cours du temps. Donc la réanalyse, c'est quelque chose qui est assez développé, par exemple aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, où il y a des dispositifs institutionnels qui ont visé à mettre en place des banques de données qualitatives pour qu'on puisse procéder à de la réanalyse. C'est même assez fortement soutenu par les institutions. Par exemple, en Angleterre, si vous voulez obtenir des financements de l'ESRC, l'équivalent de l'ANR, il faut que vous vous engagiez, sauf à vraiment expliquer pourquoi vous ne pouvez pas, mais il faut que vous vous engagiez à archiver ensuite vos données pour que d'autres puissent les réutiliser. Et l'ANR, en fait, c'était l'idée de voir si... Ben, évidemment, ça pose des tas de questions, des questions éthiques sur le rapport aux gens qui ont donné leur accord la première fois, sur le rapport aux chercheurs qui a fait la première enquête. Il y a plein de chercheurs, évidemment, qui n'ont pas envie de donner leurs données pour des tas de raisons bonnes ou moins bonnes. Mais du coup, l'idée, c'était de voir si en France, ça avait du sens d'essayer de créer une banque de données qualitatives de ce type-là, quel problème ça poserait. Et donc, le projet ANR, ça visait à tester ça avec plein de types de sujets différents. Et moi, et avec deux autres collègues, Valérie Salapala et Thibaut Rioufré, notre idée, ça a été d'utiliser cette méthode-là pour travailler sur l'ethnicisation des relations sociales et notamment des rapports aux politiques, en particulier dans les quartiers populaires. Parce que depuis 20 ou 30 ans, il y a beaucoup de travaux qui s'accordent à dire que les catégories ethniques ont plus d'importance aujourd'hui qu'avant, et qu'en gros, avant, on raisonnait plus en termes de classe sociale et aujourd'hui, plus en termes d'ethnicité. Le problème, c'est que en général, on n'a pas d'outils pour avoir une perspective longitudinale qui permettrait vraiment d'attester cette hypothèse. Du coup, on ne sait pas trop si c'est le regard des chercheurs sur la question qui a changé, parce que maintenant, on s'intéresse davantage à ces questions-là qu'il y a 30 ans, ou si c'est effectivement le monde social qui a évolué, ou bien une combinaison des deux. Et du coup, le projet ANR, ça nous donnait l'occasion de pouvoir tester ça. Et donc, pour ce faire, on a choisi de travailler sur Vaux-en-Velin, donc dans la banlieue lyonnaise, qui est souvent considérée, même si c'est pas que à raison, mais comme emblématique des banlieues françaises. Et puis aussi parce que c'est un terrain sur lequel moi j'avais commencé à travailler quand je suis arrivée en poste à Lyon. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a répertorié l'ensemble des enquêtes qui ont été faites sur Vaux-en-Velin depuis les années 60-70. Et identifier leur contenu en termes de discipline, de méthode, d'objets, etc. Donc on avait une base comme ça de près de 700 documents. À partir de là, on a réduit à ce qui nous intéressait vraiment, donc les travaux qui portent soit sur l'action publique, soit sur les mobilisations collectives, soit sur les rapports ordinaires aux politiques. Et ça nous a fait un corpus de 80 rapports, enquêtes, thèses, etc., sur lesquels on a travaillé plus précisément. Et l'idée ensuite, c'était de voir sur quels travaux qualitatifs, sur lesquels les données étaient encore disponibles, on pouvait faire une vraie réanalyse. Alors, c'est un travail très long et compliqué de retrouver les chercheurs, qu'ils aient gardé leurs données, qu'ils aient envie de nous les transmettre, qu'ensuite on mette tout ça en perspective pour comprendre le contexte de production, etc. Donc, si vous voulez ça, on pourra y revenir. Et puis, parallèlement à ça, du coup, ça nous a amené aussi à faire un travail plutôt de socio-histoire des sciences sociales pour essayer d'analyser la façon dont les sciences sociales françaises se sont peu à peu intéressées à la question ethnique à partir de ce terrain particulier de l'Est lyonnais qui a suscité beaucoup de travaux. Et notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait eu, au tournant des années 70-80, un petit milieu de la recherche qui était aux frontières, ça correspond aussi au début de la sociologie urbaine, etc., donc qui était aux frontières de l'expertise du monde universitaire qui commençait à se structurer sur ces questions et du militantisme aussi. Et donc on fait ce travail-là aussi en parallèle de socio-histoire des sciences sociales sur cette question de l'ethnicité. Donc ça, c'est un travail qu'on continue à faire tous les trois. Par contre, sur la réanalyse à proprement parler, j'ai continué toute seule pour diverses raisons. Et donc pour l'instant, dans l'optique de la réanalyse, ce dont je vais vous parler ici, on a collecté 3 enquêtes. Alors ça fait pas beaucoup par rapport aux 80 dont je vous parlais tout à l'heure, mais ça renvoie à plein de questions que pose la réanalyse, donc qui ont été conduites à une vingtaine d'années d'écart, enfin pratiquement 30 ans. Une qui a été menée par Dietmar Lorre, un chercheur qui était grenoblois et maintenant qui est à Lille, et donc qui a enquêté sur Vaux-en-Velin au début des années 90. La deuxième enquête, c'est une que j'ai conduite moi-même sur le rapport aux politiques des jeunes dans les quartiers populaires, et donc sur le cas du Mas du Taureau et de la Grapinière. Et ça date des années 2007-2009. Et puis une dernière qui est une enquête de 2011 d'une doctorante sur le rapport des jeunes à la mission locale et à Pôle emploi. Et donc ici, je voudrais me concentrer uniquement sur la réanalyse de ma propre enquête, parce que c'est celle sur laquelle j'ai le plus avancé. Et aussi parce qu'en fait, finalement, du fait des complications qu'entraîne la réanalyse, une grande partie des réanalystes, c'est les chercheurs qui réanalysent leurs propres travaux parce que ça élimine une partie des problèmes éthiques, etc., qui se posent sinon. Et donc, je voudrais d'abord vous présenter très rapidement les résultats que j'avais produits dans un premier temps d'analyse de ces données-là. Donc, c'était dans un article qui était paru dans la Revue française de sciences politiques en 2010. Et puis ensuite, je voudrais essayer de vous montrer ce que ça fait de réanalyser ces données qui ont été travaillées une première fois et en les réanalysant avec des outils un peu différents, et j'y reviendrai. Donc, je dis quelques mots sur le contenu de l'enquête en elle-même. Donc, c'est une enquête que j'ai faite en 2007 et 2009 auprès de jeunes âgés de 18 à 35 ans et qui votaient à Vaux-en-Velin. En fait, j'avais fait d'abord passer des questionnaires à la sortie des bureaux de vote. Donc, il y a un volet quantitatif dont je ne vais pas parler ici. Et puis, ces questionnaires, c'était l'occasion aussi de demander aux gens s'ils acceptaient de faire des entretiens avec nous. Et donc, on a fait comme ça une trentaine d'entretiens qui portaient sur à la fois les parcours de vie, le rapport à la politique institutionnelle, mais aussi le rapport aux politiques plus élargies et la question des discriminations, du rapport à la police, etc. Donc, à l'origine, l'entretien, il n'avait pas été conçu pour saisir les processus de catégorisation ethnique, mais même s'il y a des questions qui s'y rapportent assez directement, mais ça permet une saisie oblique de ces enjeux. Donc, dans la première analyse que j'avais faite de ces entretiens, qui portait là uniquement sur les jeunes issus de l'immigration, parce que sinon j'ai aussi interrogé des jeunes de parents français nés en France métropolitaine, mais en travaillant uniquement sur les jeunes issus de l'immigration, je m'étais intéressée aux cartes de perception que les jeunes gens dressent pour à la fois se représenter la société française et comment ils se situent au sein de cette société. Et j'avais identifié en fait 3 types de cartes de perception, 3 types de cartes perceptuelles. Dans le premier type, le quartier occupe une place centrale dans la vie quotidienne, dans l'univers affectif et dans l'identification des jeunes gens. Et du coup, leur carte perceptuelle, elle est structurée autour d'une seule opposition entre les quartiers et le reste, qui est assez flou. Ça peut être le centre-ville, la campagne, c'est un peu pareil dans leur représentation. Et du coup, cette opposition territoriale, elle est centrale et elle subsume à la fois la question ethnique, donc comme si tous les habitants des quartiers étaient des maghrébins, parce qu'en l'occurrence, c'est une carte qui était plutôt activée par des jeunes d'origine maghrébine. Et puis, elle subsume aussi la question sociale, donc comme si tous les maghrébins habitant les quartiers étaient pauvres, et inversement, comme si tous les riches ailleurs étaient blancs et habitaient en centre-ville. Et donc, tout se passe comme si la population, enfin les classes populaires, les catégories défavorisées, les pauvres, n'existaient pas en dehors des groupes ethniques minoritaires qui vivent dans les quartiers. Donc, la question sociale est complètement rabattue là sur un clivage ethnico-territorial. Dans le deuxième groupe, c'est un groupe qui se définit vraiment en opposition au premier. Donc, pour lui, pour les gens qui sont dans ce groupe-là, la question ethnico-territoriale est centrale aussi, mais eux, ils se posent en opposition à l'univers des quartiers. C'est dans les travaux, par exemple, de Beau et Pialou, etc., c'est les gens qui expliquent qu'ils passent le moins de temps possible dans le quartier, ils évitent de traîner, ils évitent que leurs enfants traînent dans le quartier, etc. Donc le quartier occupe une place centrale, mais il est vu de façon très négative. Et par exemple, c'est les entretiens où on va me dire que la réputation négative de Vaux-en-Velin n'est pas usurpée, qu'effectivement les jeunes posent plein de problèmes, qu'ils cassent tout, etc. Par contre, c'est dans ce groupe-là, la carte perceptuelle, elle est plus complexe en un sens que dans le groupe précédent, au sens où il y a aussi une question sociale qui est structurée de façon autonome et qui ne recoupe pas uniquement la question ethnico-territoriale. Donc c'est des gens qui peuvent aussi activer parfois un clivage entre les gros et les petits, les patrons et la population, etc. Mais et du coup, ce qu'on verra après, c'est que dans le rapport aux politiques, le fait qu'il y ait une tension entre ces deux façons de se représenter la société, ça va jouer sur le vote, par exemple. Et enfin, le troisième groupe, c'est des jeunes gens qui sont... Bon, là, comme je fais très vite, je ne vous décris pas leur propriété sociale à chaque fois, mais j'y avais réfléchi. Mais c'est des gens qui sont inscrits dans des trajectoires de mobilité sociale et résidentielle ascendante, donc dans le troisième groupe. Et c'est des gens, du coup, qui disent qu'ils ne renient pas le quartier, mais ils ont un rapport d'affection assez distancié. Ils n'y passent plus beaucoup de temps parce qu'ils font leurs études ailleurs ou qu'ils travaillent ailleurs, etc. Et pour eux, la question territoriale est beaucoup moins centrale dans les discours. La question sociale, par contre, est plus importante. Et notamment, ils sont capables de mobiliser plusieurs types d'appartenance professionnelle en tant que jeunes, etc., quand ils vont se situer politiquement. Donc, au plan politique, j'ai ensuite, puisque ce qui m'intéressait, c'était les effets politiques de ces cartes perceptuelles, j'ai ensuite examiné la traduction politique de ces cartes, et ça m'a permis notamment de souligner un point dont je suis sûre que vous avez conscience, mais c'est pas toujours évident dans certaines représentations, à la fois médiatiques, mais aussi parfois scientifiques, que le fait que les jeunes issus de l'immigration des quartiers populaires, c'est un groupe qui est en réalité très hétérogène et qui n'existe pas en tant que tel, et notamment, ça m'a permis de montrer que dans le premier groupe, l'identification ethnico-territoriale, c'est la boussole qui permet de se repérer politiquement, parce que c'est des jeunes gens qui sont les moins diplômés, qui ont le moins de capital culturel, etc. Donc c'est évidemment aussi les personnes qui ont le rapport le plus lointain à la politique. Et c'est aussi, du coup, comme c'est eux qui utilisent les catégories ethnico-territoriales pour se situer, c'est aussi les jeunes gens qui sont les plus à même, finalement, de s'identifier à des représentants issus des quartiers. Notamment dans les élections locales, aux municipales, quand il y a des listes des quartiers qui se constituent, c'est ces jeunes gens-là qui sont les plus susceptibles de voter pour eux parce que c'est l'identification centrale qui mobilise pour se situer politiquement. Mais en même temps, comme c'est aussi les moins intéressés par la politique, ceux qui participent le moins régulièrement, en l'occurrence en 2007, ils avaient voté parce que Sarkozy a réussi cet exploit de mobiliser les quartiers populaires et les classes populaires, mais sinon le reste du temps ils votent pas, par exemple aux législatives ils n'avaient pas voté, et donc ça explique aussi les difficultés à mon avis de structuration de cette offre politique-là, c'est qu'en fait les gens auxquels ils s'adressent, c'est pas les gens qui vont le plus facilement voter. Et puis les individus qui relèvent des deux autres types, donc le deuxième et troisième type, c'est des gens qui revendiquent davantage une norme de civisme, de participation électorale, donc pour qui le vote est important. Et par contre, l'identification territoriale est moins mobilisée politiquement. Ils mobilisent davantage des critères sociaux pour se situer, éventuellement des critères spécifiquement politiques, puisqu'ils ont davantage de compétences politiques pour le faire. Par contre, dernier point, les gens du deuxième groupe, donc je vous ai dit qu'ils pouvaient activer tantôt des identifications sociales, tantôt des identifications ethnico-territoriales, et de fait, on a dans les entretiens des propos qui sont assez ambivalents. Et donc, pour le dire très vite, en gros, quand ils activent les catégorisations sociales, ben, ils vont avoir un discours, par exemple, critique de Sarkozy. Parce que certains, je les ai interrogés en 2009, donc on pouvait commencer à faire un petit bilan des deux premières années de la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc là, ils avaient un discours très critique sur le fait que Sarkozy n'aidait que les riches, les patrons, les entreprises, etc. Par contre, quand ce dont ils parlaient, c'était plutôt la question des quartiers, là, ils avaient un discours beaucoup plus positif sur la fermeté de Sarkozy, le fait que lui, il voulait imposer le respect, ou tout son discours sur la racaille, les carchères, etc., ben, ça leur paraissait plutôt pas mal, finalement. Et donc, pour l'instant, ça ne se traduisait pas dans leur vote. La plupart des jeunes que j'ai interrogés, hein, ça correspond à ce qu'on sait au plan statistique, ils ont voté Ségolène Royal ou d'autres candidats de gauche. Donc, pour l'instant, ça ne se traduit pas dans leur vote. Mais par contre, c'est des gens qui disent qu'ils envisageraient éventuellement de voter à droite, ils pourraient basculer. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter assez vite les résultats de la première analyse que j'avais faite manuellement avec un codage thématique. Et puis ensuite, dans le cadre de la réanalyse, J'ai repris ces entretiens et puis d'autres qui n'avaient pas été mobilisés dans la première enquête, enfin dans la première analyse. Et aussi, je les ai travaillés avec un logiciel, un CAGDAS, donc un logiciel d'analyse des données qualitatives, qui s'appelle, enfin en l'occurrence, c'est le logiciel Atlas TI. Et en fait, le fait à la fois de la réanalyse et aussi de l'utilisation de ce logiciel-là, ça impose en quelque sorte une double réflexivité sur le travail qu'on est en train de faire, parce que la réanalyse, ça oblige à se réinterroger sur comment on a fait la première fois. Alors c'est assez déconcertant, parce qu'on se rend compte qu'il y a des moments où on a bien du mal à reconstituer ce qu'on a fait pas à pas. Et puis le CAGDAS, ça oblige aussi à... Enfin, ça incite à, mais ça aussi, ça oblige un peu à... essayer de détailler les opérations de recherche qu'on mène. Donc il y a une forme de réflexivité au carré comme ça, qui a des côtés assez déstabilisants, mais à mon avis aussi qui apporte des choses intéressantes, et c'est ce que je voudrais évoquer maintenant rapidement. Donc notamment, en fait, la première chose que j'ai faite dans le cadre de la réanalyse, c'est d'essayer de reconstituer comment j'avais élaboré les catégories, les ethnico-territoriales, sociales, etc., la première fois, et de voir comment... avec l'utilisation d'un CAGDAS dans lequel, en fait, je code ligne à ligne tous les entretiens, et à la fois j'applique une grille thématique, donc j'ai un certain nombre d'items que je veux coder, et en même temps j'essaye aussi de faire ressortir des choses auxquelles j'aurais pas pensé avant. Donc c'est très très long, là pour l'instant sur 16 entretiens codés j'ai 3600 codes, donc c'est pas vraiment la technique, là. Enfin, on peut faire ça pendant un temps, mais après il faut faire quelque chose de plus efficace, on va dire. Mais disons qu'en comparant ces deux méthodes-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, dans ce que j'avais codé comme étant des catégories, il y avait plusieurs choses, en fait, derrière. Et notamment, il y a à la fois des logiques d'identification à des groupes, soit d'auto-identification, soit d'hétéro-identification, qui peuvent être explicites ou implicites. Moi, j'entre pas dans le détail. Mais comme catégorie, on peut aussi coder des enjeux ou des clivages. Par exemple, le fait de parler d'une politique publique ou de parler de la sécurité sociale comme étant un enjeu important, par exemple, quand on doit évaluer l'action de Sarkozy, c'est aussi une forme de catégorie sociale, mais c'est un autre type de construction de la catégorie que des logiques d'identification. Et puis ça peut être aussi des façons de labelliser des réalités sociales. Et par exemple, moi, un des trucs qui m'intéresse, c'est comment les gens parlent des discriminations et quel impact ça a sur le rapport aux politiques. Et on se rend compte qu'une même personne, pour décrire les mêmes événements, elle peut, selon le moment de l'entretien, utiliser des termes très différents. Parfois, assumer franchement le terme de discrimination, mais le plus souvent, moi, ce que je constate, c'est que les gens ont du mal à utiliser cette étiquette-là parce qu'ils ont peur qu'on les accuse d'adopter une position de victime, de se dédouaner de leurs responsabilités, etc. Donc très souvent, c'est plutôt des euphémismes, des périphrases qui sont utilisées. J'ai eu des petits problèmes. Bon, là, c'est vrai qu'il y a eu des choses, j'ai pas bien compris, etc. Et du coup, c'est très important aussi en termes de codage de voir comment on utilise des expressions et des processus de labellisation différents selon les moments et d'essayer de comprendre pourquoi ça change. Donc ça, c'est la première chose que permet la réanalyse. Mais ce sur quoi je voudrais plus insister ici, c'est deux points. D'une part, le fait que la réanalyse, ça m'a permis de déplier en quelque sorte les catégories ethniques et sociales que j'avais identifiées la première fois. En gros, dans la première analyse, je me situais par rapport au débat qui, tel qu'il est structuré en France, est quand même assez binaire. Il y a un certain nombre de... Sur le rapport entre questions ethniques et questions sociales, assez souvent, en fait, on vous demande de choisir a priori. C'est-à-dire, soit vous croyez que le déterminant ultime, c'est l'appartenance de classe, et du coup, vous verrez pas d'ethnicité, pour le dire un peu vite. Hein. Soit vous pensez l'inverse, et du coup, vous verrez de l'ethnicité tout le temps. Et moi, d'ailleurs, dans certaines lectures de mes textes, du premier texte, c'était ce qu'on m'avait dit. C'était « Oh, mais c'est bien, en fait, parce que tu trouves que c'est la classe qui importe », alors qu'il y en avait d'autres qui me disaient le contraire, puisque j'essayais de montrer que, justement, ça dépendait des groupes sociaux. Donc, dans un premier temps, ça m'avait amené à faire une opposition un peu binaire entre l'ethnico-territorial, bon, plutôt ethnique d'un côté, puis le social de l'autre. Et en fait, la réanalyse m'a amené à déplier les catégories. Alors, à la fois la catégorie ethnique, mais là, je ne l'évoquerai pas ici pour ne pas prendre trop de temps, et aussi la catégorie sociale, et c'est ce que je voudrais évoquer très vite ici. Notamment parce que dans un premier temps, moi, la catégorisation sociale, le clivage social que j'avais regardé, c'était surtout l'opposition gros-petit, patron, enfin riche-pauvre, etc., ce qui correspond aussi à ma socialisation politique et à celle qu'on est un certain nombre, je pense, à partager ici, et aussi la façon dont moi j'avais défini la politisation avant, donc en termes de clivage, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en réanalysant les entretiens, qu'il y avait aussi des moments où ce qui était activé comme opposition, c'était plutôt l'opposition entre les méritants et ceux qui ne méritent pas. Donc, d'un côté, ceux qui travaillent dur, ceux qui essaient de s'en sortir, etc. Et puis, de l'autre côté, soit les fainéants, soit ceux qui profitent des allocs. ou enfin tout ce que vous pouvez imaginer, parce qu'on l'entend quand même assez souvent maintenant. Et donc là, c'est plutôt un discours qui met l'accent sur le mérite, les efforts, la responsabilité individuelle. Et puis, dans certains cas, c'est un discours qui se branche sur l'opposition ethnique aussi, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est plutôt les immigrés ou les enfants d'immigrés qui font partie des assistés, de ceux qui cherchent pas à travailler. Alors, c'est pas, je suis évidemment pas du tout la première à avoir pointé ce clivage-là. Hein. Par exemple, dans le livre que citait hier Laurent, le livre dirigé par Céline Braconnier et Nona Meyer, c'est un point qui revient de façon assez importante, où on peut penser avant ça au texte l'entretien avec Annie Colovald et Olivier Schwartz sur la tripartition de la société, sur l'idée qu'on passe d'une société qui oppose les riches et les pauvres à une société en trois groupes, avec aussi en dessous, en partie les immigrés, mais pas forcément toujours, mais aussi les assistés, etc. Et donc ça a été montré dans d'autres cas, mais par contre, il me semble que... Jusqu'à présent, on manque d'éléments pour comprendre comment les mêmes personnes, selon les moments, peuvent, et dans un même entretien parfois, peuvent passer d'un type de discours à l'autre, et d'un discours qui oppose les gros et les petits, les riches et les pauvres, à un discours qui va opposer les méritants et les fainéants, pour le dire comme ça. Et notamment, ce qui m'a frappé, c'est que dans plusieurs entretiens que j'ai faits avec des personnes nées en France, de parents français, de milieux très populaires, l'entretien il est en quelque sorte double. Dans un premier temps, parce que je demande un bilan de Sarkozy, etc., ben, le clivage qui sort, c'est surtout le clivage entre les gros et les petits. Et puis après, quand on commence à poser des questions sur islam, laïcité, parce que j'avais des questions là-dessus, l'entretien se redéfinit autour de cette question-là qui devient centrale, et tout est retravaillé sous la grille, sous le prisme ethnique, et en opposant ceux qui profitent du système et ceux qui travaillent dur pour s'en sortir. Et il me semble qu'il n'y a pas un moment de l'entretien qui est plus vrai que l'autre, que c'est pas juste qu'il révèle vraiment ce qu'il pense à la fin de l'entretien, alors qu'avant, il me racontait des histoires. Et je pense que du coup, une analyse vraiment fine et ligne à ligne de ce qui se passe dans l'entretien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on change de façon de catégoriser le monde, elle a vraiment tout son intérêt. Et c'est ce que je voudrais évoquer donc pour conclure. Sur le fait que, donc c'était le deuxième point de ce que je voulais dire sur l'apport de la réanalyse, c'est que, en fait, dans la première analyse que je vous ai présentée tout à l'heure, j'essayais d'identifier donc les cartes perceptuelles, donc c'était un peu posé à plat, ça avait un côté un peu descriptif, mais... Si on considère que ces catégorisations-là, ces cartes de perception, c'est pas simplement un truc cognitif qui est dans la tête des gens, mais en fait, ce qui se joue, c'est dans les interactions, dans les relations sociales. Et ben, l'entretien, alors c'est sûr qu'en termes ethnographiques, c'est pas, bon, j'aurais aimé faire des observations plus longues, etc. Là, il se trouve que j'avais pas forcément le temps de le faire. Mais il me semble que l'entretien, il peut aussi être analysé, sous cette lentille-là de l'ordre de la relation et de l'interaction. Et que ça permet de comprendre un certain nombre de contradictions et d'ambivalences. Par exemple, et pour conclure, il y a un des entretiens que j'avais fait avec une jeune femme qui a un entretien assez laborieux, il dure juste une heure, elle me dit 48 fois dans l'entretien qu'elle ne sait pas en réponse à mes questions. Et de fait, j'ai un peu l'impression parfois de lui extraire des choses voilà, qui ne sortent pas du tout spontanément. Et à un moment, par exemple, elle me parle je l'interroge sur la laïcité. Et donc, dans un premier temps, elle me dit, je ne sais pas quoi dire. Donc, alors, je lui dis, est-ce que c'est positif ou pas? Elle me dit, oui, c'est positif. Alors, je lui dis, je vais insister un peu parce que, voilà, elle avait commencé à comprendre qu'à chaque fois, je la relançais. Et donc, au fur et à mesure, elle me dit des choses différentes, en fait. D'abord, elle me dit, la laïcité, c'est bien, je trouve que c'est normal. Et puis, elle évoque la question du port du voile. Alors, je lui dis, il y a eu des débats autour de la laïcité, sur le port du voile à l'école et tout ça. Et donc là, à ce moment-là, elle commence à me dire, d'un côté, je suis d'accord, mais d'un côté, je suis pas d'accord. C'est vrai, je vois pas en quoi ça dérange qu'une personne aille à l'école avec son foulard. Bon, après, d'un autre côté, c'est vrai que si elle accepte pas ça, elle retourne dans son pays. Au moins, elle pourra le porter. Et alors, du coup, je lui dis, quand vous dites, après tout, ça me gêne pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, elle me dit, pourquoi ça gêne? Après tout, on porte bien des croix. Et puis, donc, elle continue là-dessus, et elle me dit, c'est vrai, on est en France, on n'est pas chez nous, entre guillemets. Donc, elle-même est née en France, et ses parents sont arrivés très tôt en France de Tunisie. Donc, elle est tout le temps sur une position ambivalente entre s'autoriser à critiquer la loi sur le voile et pas s'autoriser, avec d'un côté le fait de se dire, après tout, on n'est pas chez nous en France, donc on n'a rien à dire, et puis en même temps, si, après tout, je suis là, chez moi. Parce que pour finir, je lui dis, vous êtes née en France. Elle me dit, oui, c'est vrai. Mais bon, pour ceux qui viennent de l'étranger, non, s'ils veulent mettre le foulard, eux, ils ont qu'à retourner chez eux. Et du coup, on pourrait, dans ce que j'avais un peu fait finalement dans ma première analyse, parce que c'est pas que sur la laïcité qu'il y a ces ambivalences-là, on pourrait écarter ces contradictions-là en se disant c'est un pur artefact, c'est le chercheur qui lui l'oblige à politiser son propos, mais finalement ça veut rien dire. Mais il me semble que si on considère que l'entretien c'est un contexte, ce qui est quand même le point sur lequel la plupart des ouvrages de méthode qu'on utilise pour enseigner à nos étudiants se sont mis d'accord aujourd'hui. Donc si on considère ça, et si on se dit que c'est pas juste une chambre d'enregistrement d'opinions qui serait préalablement constituée, si on se dit que les opinions, elles se structurent aussi dans l'interaction, dans la relation, ben, il me semble que il faudrait peut-être s'interroger un peu plus finalement sur les effets de contexte liés aux entretiens. Et il me semble que, par exemple, ce que cette petite citation nous dit, c'est à la fois les types de répertoires de façon de se prononcer sur une réalité sociale qui sont disponibles. Elle, en l'occurrence, elle en a deux. Enfin, elle a deux façons de catégoriser cette question, de percevoir cette question de la laïcité. Spontanément, du fait de ses dispositions, de son faible sentiment de compétence, etc., elle a plutôt un sentiment d'illégitimité, puis du coup une forme de révérence à ce que la France a décidé, et donc bah, si c'est la loi, voilà, il faut le faire. Mais en même temps, l'entretien lui fournit, ou en tout cas réactive, des capitaux qui lui permettent de produire un autre type de discours. Le fait que, comme je lui dis, bah, il y a plusieurs points de vue sur la loi, bah, ensuite ça va donner quelque chose de différent. Puis je lui rappelle aussi que bah, elle-même, elle est née, elle est née en France. Donc ça, ça permet qu'elle active un registre plus critique. Donc il y a plein d'autres fois où dans les entretiens on observe ces ambivalences, puis ça fait aussi écho à ce qu'évoquait Lorenzo hier finalement sur les contradictions apparentes des acteurs. Et il me semble que si, voilà, si la prise en compte des contextes d'interaction est plus évidente dans les enquêtes vraiment ethnographiques, c'est sans doute possible d'intégrer ça dans l'analyse des entretiens. Et par exemple, et c'est juste un mot de conclusion, dans la façon dont les gens parlent des discriminations et le fait qu'ils s'autorisent plus ou moins à explicitement labelliser un événement comme une discrimination, ça évolue aussi beaucoup au cours de l'entretien, en fonction de ce qui a été dit avant, en fonction de la relation avec l'enquêteur, etc. Et il me semble qu'on gagne à avoir une analyse plus fine de ces choses-là. Et la réanalyse, alors c'est pas la seule façon de le faire, bien sûr, hein, mais en repassant après une analyse qui était plus statique, de se livrer à une deuxième analyse qui est finalement plus dynamique, qui s'intéresse plus au processus, ben c'est une façon de saisir ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Raphaël Chalier qui va nous parler des jeunesses communistes.
Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci pour... Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, moi je vais prendre la question de ces journées sous l'angle de savoir comment une organisation politique de jeunesse, qui relève donc plutôt a priori de la politique spécialisée, va tenter de mobiliser des profanes, en l'occurrence des jeunes des milieux populaires, et comment elle va déployer tout un travail d'euphémisation, sinon du politique, de la dimension partisane. Cette organisation, c'est effectivement le Mouvement des jeunes communistes de France, plus connu sous son nom d'usage, la JC, que j'ai étudié dans le cadre plus général d'une thèse sur l'engagement partisan dans différents territoires populaires. Via un jeu d'échelle ethnographique entre différents niveaux, je vais progressivement interroger les tensions entre politisation et dépolitisation au niveau de l'activité nationale de la JC, d'une fédération à l'autre, et enfin, à travers l'exemple d'une section, exemple micro qui illustre, il me semble, les ambivalences de cette stratégie d'euphémisation du politique. Alors, concernant la JC en général... Alors, il faut savoir que la JC est une organisation de jeunesse liée au PCF, mais qui dispose d'une autonomie relative. Au passage, je suis content, puisque la belle intervention de Denis a déjà donné un point de vue éclairant sur qu'est-ce que c'est qu'être militant à la JC. Du coup, ça va éclairer le propos sous un autre angle. Du coup, la JC, il y a une marge d'autonomie, mais malgré tout, ses traits doivent être rapprochés de l'histoire et de l'éthos du mouvement communiste. Ainsi, on peut révéler deux grands traits qui distinguent la JC parmi les organisations de jeunesse. En effet, souvent les organisations de jeunesse des partis fonctionnent comme des écoles du métier politique, des écoles de futurs professionnels, très investis, avec des militants très investis, issus de milieux plutôt aisés et qui se dirigent vers des carrières politiques. La JC a bien un premier cercle qui correspond à cette image de l'école de cadre politique, mais elle ne s'y limite pas. Elle cultive aussi un deuxième cercle avec l'idée qu'il faut recruter large, qu'il faut recruter des adhérents de base et qu'il faut faire des cartes. Dès lors, elle va déployer tout un pôle d'activités qui vont être de caractère beaucoup moins partisan et beaucoup moins idéologisé. Elle va déjà effectuer des activités de formation théorique pour diffuser la pensée communiste. Elle va aussi mener des campagnes mouvementistes centrées sur des enjeux dits concrets, Par exemple, elle participe aux mobilisations contre le CPE, elle impulse des campagnes pour les droits des jeunes ou la gratuité des transports, qui vont la rapprocher d'un syndicat. La JC impulse des campagnes de solidarité internationale qui ont une dimension idéologique, mais qui peuvent aussi être retraduites de manière plus consensuelle, en jouant sur des ressorts humanitaires. Je pense notamment à la campagne contre l'apartheid des années 80 ou à la campagne Palestine aujourd'hui. Et enfin, grande spécificité de cette organisation, elle mène tout un travail d'impulsion d'initiatives socio-culturelles, de loisirs, des fêtes, des concerts, du sport ou d'entraide, l'appui au secours populaire ou l'organisation de voyages à prix réduit pour les précaires. Si beaucoup de sections JC vont combiner ces différentes activités, le juste dosage de ces différentes pratiques fait néanmoins l'objet de débats récurrents. Pour reprendre les termes qui reviennent souvent, c'est la question de savoir au sein de l'organisation s'il faut en priorité organiser des clubs de foot ou des formations sur Lénine, avec derrière l'interrogation sur est-ce qu'il faut privilégier le quantitatif, recruter, ou alors s'il faut privilégier le qualitatif, former. Il faut aussi savoir que cette tension, même si elle prend une actualité particulière dans une période où il y a une montée de l'impératif participatif, elle est constitutive du mouvement communiste, et notamment de la JC, qui a été créée en s'inspirant beaucoup des rivaux modèles de la jeunesse ouvrière chrétienne, et avec ce qui impliquait dès les origines une tension qu'on retrouve dans les débats de la JC des années 30 ou 40, comme l'ont montré les historiens qui travaillent là-dessus, avec des débats pour savoir s'il faut faire une organisation de masse peu idéologisée qui va jouer le rôle de tremplin vers le parti ou plutôt comme une organisation d'avant-garde exigeante en termes de contenu pour former ce que Lénine appelle des révolutionnaires professionnels. Par ailleurs, ce débat recoupe fortement un autre trait du mouvement communiste, à savoir ce que Bernard Pudal a appelé l'ouvriérisme, c'est-à-dire la promotion préférentielle de cadres ouvriers par le parti communiste. Ce qui a fait pendant longtemps du Parti communiste une exception, c'était le parti qui envoyait des ouvriers à l'Assemblée. Or, comme l'a bien montré notamment Julien Michy, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une dynamique de normalisation du mouvement communiste qui peu à peu passe d'une base très populaire à une base de classe moyenne du public. Et parallèlement à un autre mouvement, qui est pour le coup est décrit par David Gouard, de rétrécissement sur une sorte d'endocratie des vieux militants et leurs enfants. C'est le débat récurrent au sein du mouvement communiste, la place des enfants de militants. Et ces deux questions, elles s'imbriquent, il me semble, à travers ce que les militants communistes appellent les pratiques de masse, c'est-à-dire les pratiques pour recruter beaucoup de jeunes, peu diplômés, éloignés de la politique, qui se méfient viscéralement des politiciens. Comment mobiliser des jeunes politiquement alors qu'on ne veut surtout pas passer pour des politiciens. Tel est le paradoxe que doivent gérer ces militants. Pour développer un peu sur les activités qu'ils essayent d'impulser un peu à la lisière du politique, la campagne de soutien à la Palestine, qui en même temps révèle, qui est menée depuis quelques années dans la JC, et qui révèle aussi une volonté de recruter des enfants des classes populaires immigrées qui sont perçus comme réceptifs à cette thématique, avec par exemple un concert qui sera organisé pour fêter la libération de Salah Hamouri, un prisonnier politique palestinien, avec des stars de la scène rap, comme Kerry James ou Medine. Ou alors, autre exemple, la nomination de Nordine Idir, comme président du mouvement, et surtout la mise en récit de son parcours de jeune militant de banlieue, qui vise, il me semble, à mettre en scène une certaine diversité de l'organisation. Par ailleurs, parallèlement à cet enjeu jeune des quartiers, il y a aussi l'enjeu jeune travailleur. Il y a des débats récurrents dans l'organisation JC sur l'idée qu'il faudrait investir les lycées professionnels ou les foyers de jeunes travailleurs. Il y a un ensemble de techniques qui sont mises en question. Mais dans les faits, on constate, en observant la vie interne de l'organisation, que ces jeunes travailleurs sont peu présents, sauf si on joue sur le flou de la catégorie. Par exemple, lors de l'atelier organisé lors d'un congrès en 2012, alors que le débat se cristallise sur les difficultés pour mobiliser les jeunes des classes populaires, dans les faits, les jeunes travailleurs qui interviennent sont des salariés de professions intermédiaires supérieures employés par les municipalités. Voyons maintenant comment cette question, cette tension, à la fois entre politique et dépolitisation, avec pour enjeu toujours recruter en dehors, élargir le cercle, va se décliner d'une fédération à l'autre. D'un côté, on a un pôle avec des fédérations très concrétistes, qui axent leur activité sur des pratiques concrètes, ludiques. C'est le cas, par exemple, des JC 93 ou des JC du Val-de-Marne, qui essayent d'adapter leurs activités à leur public cible, et qui, du coup, vont mettre en avant tout un ensemble d'activités relevant, à mon sens, enfin, et là, je me suis vraiment retrouvé dans cette expression de Le Gall, Offerlé et Plou, quand j'enquêtais sur la JC, qui vont mettre en place des activités de politique sans en avoir l'air. Par exemple, un tournoi de football de solidarité avec la Palestine. Par exemple, du soutien à la révision du bac, des fêtes d'Halloween costumées, ou encore des projections publiques des matchs de foot pendant la Coupe du Monde dans les locaux du parti. Et ce qui peut passer par un aspect plus symbolique avec la mise en place, par exemple, de mots d'ordre type banlieue de résistance sur les affiches dont la police d'écriture va imiter les tags pour rénover un peu l'image du mouvement. Par ailleurs, cette orientation des JC du Val-de-Marne ou du 93, elle dépend fortement des configurations des milieux communistes locaux et du rapport qu'ils ont avec le parti. En effet, les activités socioculturelles demandent beaucoup de moyens. Il faut pouvoir bénéficier des locaux du parti, de financement, et ainsi de suite. Par ailleurs, les municipalités ou les collectivités gérées par les communistes vont offrir des opportunités professionnelles aux jeunes militants, ce qui crée un rapport particulier et une tendance à avoir des fédérations. Alors je vais essayer de le dire d'une manière pas normative, mais c'est assez complexe. En gros, qui vont avoir un rapport assez suiviste à la ligne de l'organisation, enfin un rapport d'adhésion assez forte, une proximité réelle, là avec l'idée récurrente qu'on va passer, qu'on va aller à Colonel, voir un tel ou un tel. Colonel, c'est Colonel Fabien, le siège du PC. Et ce qui se voit aussi dans les congrès, ou dans les formations, où les militants, les cadres fédéraux de ces fédérations, même si bien sûr il y a des exceptions, après il faudrait creuser beaucoup plus finement les dynamiques locales, vont être dans une adhésion très forte à la ligne nationale et vont défendre la ligne du parti. Contrairement à d'autres JC qui vont avoir un usage beaucoup plus contestataire de l'organisation et ce qui va les amener à être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus idéologues. C'est le cas des fédérations dites orthodoxes ou, pour reprendre le terme en vigueur, les staliniens. C'est eux-mêmes qui le revendiquent. Comme celle, par exemple, des Bouches-du-Rhône ou l'importante Fédération du Nord, qui vont constituer des contre-modèles par rapport à l'option concrétiste, type 93 ou Val-de-Marne. En effet, ces fédérations sont beaucoup plus critiques vis-à-vis de la direction, qu'elles accusent de liquider le parti, d'être des sociodémocrates, des mous, et ainsi de suite, et qui vont affirmer leur attachement à l'héritage communiste, quitte à multiplier des signes assez folkloriques et provocateurs, par exemple, mise en avant systématique de la faucille et du marteau, ça c'est l'aspect folklorique, et des provocations ou des chansons sur le bilan positif de l'URSS, sur la Corée du Nord comme expérience socialiste sympathique, et ainsi de suite. Donc tout un travail de, un peu provocateur, mais de réappropriation très idéologique de l'histoire du parti. Elles vont aussi valoriser beaucoup plus les activités de formation. Elles vont réimpulser des écoles de marxisme. Et par ailleurs, les activités socioculturelles, dans ces fédérations orthodoxes ou staliniennes, vont toujours être vues comme secondaires. Ce qui importe, c'est de former. Recruter, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et ce qui va donner jeu à toute une tension entre d'un côté ces concrétistes et de l'autre ces idéologues, entre ceux qui vont accuser les uns d'être déconnectés des réalités de la jeunesse d'aujourd'hui, et de l'autre ceux qui vont accuser les concrétistes de se concentrer, de faire uniquement des clubs de foot, et du coup de laisser les manettes aux bureaucrates, de dépolitiser l'organisation, et ainsi de suite. Pour illustrer ces contradictions de manière beaucoup plus micro, j'ai combien de temps ?
Moins de 10 minutes.
Moins de 10 minutes, d'accord, je vais essayer de faire vite. Alors je vais essayer de passer à un niveau beaucoup, beaucoup plus fin et de revenir sur la trajectoire d'une section de jeunes communistes en Seine-Saint-Denis qui illustre, qui concentre vraiment, pour moi, les ambivalences de cette politique d'euphémisation du politique au sein même d'une organisation politique spécialisée. En effet, alors la section JC en question, c'est une section de l'UEC, l'Union des étudiants communistes, implantée dans une fac de Seine-Saint-Denis, et qui est atypique au sein de l'organisation par le profil des adhérents. C'est-à-dire que même si c'est une section d'étudiants, son profil est très populaire en termes d'origine. Elle mobilise principalement des enfants d'ouvriers et employés, immigrés ou issus des territoires d'outre-mer, racisés, majoritairement noirs, qui sont aussi majoritairement des hommes, qui ont grandi dans les quartiers populaires, qui correspondent donc grosso modo à la strate supérieure de la jeunesse populaire des grands ensembles. Cette spécificité doit beaucoup à un effet d'identification et de recrutement par proximité sociale qui va enclencher une sorte de cercle où les militants recrutent d'autres militants qui sont proches d'eux socialement, ce qui va enclencher peu à peu cet effet un peu paradoxal d'avoir une section où ce sont les banlieusards qui ont pris la section et qui sont le groupe de référence. Alors je vais venir très brièvement sur le profil un peu d'un des militants par qui le groupe a basculé et a pris cette identité particulière. Alors je l'appelle Alpha, il a 25 ans au moment de l'enquête, il est étudiant en licence de sociologie, fils d'un couple d'immigrés maliens, son père est peintre en bâtiment, sa mère est femme de ménage. Il s'est intéressé à la politique en même temps que sa sœur au moment des émeutes de 2005, a brièvement adhéré au PS, sans militer, puis a rejoint la JC, où il a peu à peu pris des responsabilités. Et du coup, dans la section, il va recruter d'autres militants qui partagent ses conceptions assez particulières du militantisme. Cette conception, il la résume comme un militantisme sans prise de tête, axé sur des activités concrètes qui parlent aux gens et qui ne nous feront surtout pas passer pour des politiciens, comme par exemple la projection de films sur les Black Panthers. C'est aussi un usage, il développe aussi un usage très particulier du local des militants communistes. Il le présente comme un lieu de vie ouvert à tous, où toute personne qui passe est invitée à venir s'asseoir. On lui explique que c'est le local de tous les étudiants. Tu peux venir faire réchauffer tes plats avec le micro-ondes. On y organise souvent des apéros, il y a des fois des joints qui tournent. Vu du dehors, ça paraît peu orthodoxe comme usage d'un local politique, ce qui amène d'ailleurs les autres militants à considérer que les jeunes communistes, c'est des jeunes dans le local qui écoutent du rap et qui fument des joints, et qui ne s'intéressent pas à la politique. Ce qui est beaucoup plus complexe quand on passe de l'autre côté de la vitrine du local. Alors, je suis désolé. Alors, en effet, les militants de la section vont piocher de manière sélective dans les références communistes, en alternant entre quelque sorte entre politisation, politisation bricolée, politisation à éclipse. Enfin, ils s'approprient à leur manière, je reprends leur propre terme, l'héritage communiste. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus mettre en avant les questions d'anti-impérialisme, d'internationalisme, de lutte anticoloniale, d'antiracisme, de violence policière, et ainsi de suite. Il s'intéresse aussi beaucoup aux questions. Paradoxalement, il s'intéresse aussi beaucoup, et ça fait référence à ce que disait Camille avant, il s'intéresse à la question sociale, mais toujours sous l'angle très concret et immédiat, les droits étudiants. Ils sont vraiment dans une valorisation des activités concrètes, et ils se méfient du blabla théorique. C'est vraiment leur leitmotiv, c'est pas en organisant des formations sur Marx qu'on va ramener des gens pas convaincus. Et du coup, leurs propres réunions de formation vont être assez atypiques par rapport au modèle attendu. Par exemple, quand un militant va partir d'un article sur le business du football pour expliquer le capitalisme, ou alors quand un autre étudiant en économie va faire une formation sur la situation de la Grèce et conclure, au grand désarroi d'autres militants JC, qu'aucune solution n'est possible et que dans tous les cas, je le cite, les Grecs sont baisés. Ce qui est très étrange pour une formation politique, puisque le but, c'est normalement d'expliquer qu'il y a des solutions et que l'organisation a les solutions. Par ailleurs, ils vont aussi organiser très fréquemment des fêtes dans les locaux du PCF, puis une fois qu'ils seront fait virer des locaux du PCF dans les bars de la ville, qui vont être pensées sur le modèle des soirées d'intégration, dont l'intitulé est « Too cool for school », et qu'ils mettent en avant et où ils essayent de diluer au maximum l'aspect politique, l'idée étant que chacun, militant ou non, doit s'y retrouver. Et par ailleurs, tout en valorisant une dimension politique en soi de ces événements, ce qui les distingue très clairement, pour le coup, des positions orthodoxes qu'ils ne peuvent pas supporter, et qu'ils voient comme des fous, des intellos, des gens perdus dans leur monde. Je cite Alpha. D'abord, je lui pose une question, je lui demande, les soirées, est-ce que c'est un moyen d'amener les gens à des choses plus politiques? Et lui me répond, ah non, il n'y a pas ceux qui font de la politique en venant aux réunions et les autres. On fait venir des étudiants pour une soirée dans un bar en banlieue, on crée de la convivialité, c'est politique. Il y a ceux qui viennent au format, aux âgés, aux soirées, chacun fait de la politique à sa façon. Donc une conception très spontanéiste, qui conteste la définition dominante du politique, ce qui va créer des débats dans l'organisation, avec notamment les militants de sensibilité orthodoxe, qui vont dire que c'est n'importe quoi, que c'est l'archétype, enfin, que c'est le résultat de la politique délétère du national qui vise à diluer l'héritage communiste, que c'est des jeunes qui ne font pas de politique et que c'est un BDE de gauche, c'est-à-dire une association. Alors, pour revenir, pour terminer là-dessus, alors progressivement, alors que pendant un temps, les rapports de cette section avec les cadres nationaux sont plutôt positifs, notamment à cause de la diversité sociale de la section, qui est valorisée, il y a des petites marques de reconnaissance, on leur propose des responsabilités, mais néanmoins, progressivement, les rapports vont se dégrader, alors selon un processus très long et erratique, ça rejoint beaucoup, c'est exactement ce que disait Lorenzo hier sur les dispositions qui s'activent dans des contextes, et il y a toute une dynamique d'une sorte de carrière collective avec des interactions négatives qui vont renforcer la coupure. Mais malgré tout, progressivement, ces jeunes vont s'autonomiser de plus en plus, c'est-à-dire qu'ils vont passer du « on est content d'être à la JC, c'est une organisation populaire », ah, on est quand même la seule section JC où il y a des Noirs, où il y a des jeunes de milieu populaire, les autres c'est tous des petits bourgeois, et ainsi de suite, à une position de « on ne va plus aux manifs ». Quand l'organisation essaye d'organiser une conférence, on refuse d'organiser la conférence parce qu'on préférait faire d'autres activités, et de toute façon une conférence c'est de la merde, ça ne sert à rien, avec du coup toute une dynamique de conflit qui va se mettre en place, où la section va de plus en plus être accusée d'être dépolitisée, où la section va de plus en plus contester la définition dominante de ce qu'est le politique, en disant « les jeunes communistes, c'est n'importe quoi, c'est des petits bourgeois, ça marche pas ». D'ailleurs, la preuve, ils ne savent pas recruter. Regarde toutes les sections, la section-là, il y a deux personnes, c'est que des fils de militants, ils sont enfermés entre eux, c'est des bolos, ils savent pas parler aux vrais jeunes, nous, on sait parler aux vrais jeunes, la preuve, regarde le local. Ce qui va les amener, au final, à quitter l'organisation collectivement et la section à se diluer complètement suite au départ d'une quinzaine ou d'une vingtaine de militants réguliers qui vont partir pour fonder leur propre association culturelle pour, disent-ils, faire de la politique à leur manière. Du coup, pour conclure, il me reste une minute ou deux minutes, j'essaye d'aller vite. D'accord. Alors, pour revenir sur la problématique de base de la journée, et sur la question évoquée par Laurent Jean-Pierre de la tension à éviter entre populisme et misérabilisme. En effet, on voit bien, dans ce cas, que la définition même du politique fait débat chez les enquêtés. Il y a différentes définitions en tension. Dès lors, pour moi, il y a deux écueils à éviter, où j'ai basculé successivement, comme dans toute bonne relation d'enquête et toute relation d'analyse. Le premier écueil, c'est effectivement d'invisibiliser la politique des profanes, de coller à la définition des dominants, des spécialistes, et en gros d'accepter l'idée que ces jeunes ne font pas de la politique parce qu'ils ne font pas de la politique selon les normes militantes instituées. Par contre, l'autre écueil, qu'il me semble est tout aussi négatif, ça serait celui d'une conception hyper-relativiste où tout serait politique tout le temps, sans chercher à néanmoins à mettre un travail de catégorisation plus fine. Car en effet, si tout est politique, on va nier le fait qu'il y a quand même une hiérarchisation objective. En effet, on constate bien que ce travail d'euphémisation du politique, caractéristique de la JC, il a un effet très ambigu. D'un côté, il permet de mobiliser des jeunes qui ont peu de disposition à s'engager. Et effectivement, quand on compare les propriétés sociales, ils sont moins souvent, dans ce cas précis, ces jeunes sont moins souvent fils de militants, plus souvent issus de milieux populaires, plus souvent fils d'immigrés, et ainsi de suite. Il y a des séparations culturelles qui se voient à travers une pratique religieuse plus forte, et ainsi de suite. C'est pas les serfs et les seigneurs, mais c'est des petites différences entre les petites classes moyennes de la banlieue rouge et des jeunes de la strate inférieure, de milieu populaire. Et du coup, ces rapports sociaux, enfin, l'effet paradoxal de ces stratégies d'euphémisation du politique, c'est que les jeunes qui ont le moins de disposition vont forcément se cantonner dans le deuxième cercle du proto-politique et des activités para-associatives. Et donc, ils vont paradoxalement soit alors, pousser trop loin la logique d'euphémisation du politique et après les avoir encouragés et leur avoir répété « il faut faire ça », eh ben on va leur dire « c'est pas bien, vous n'êtes pas politisé », d'où l'effet est forcément de les pousser dehors, ou plus généralement, ce qui est la tendance beaucoup plus générale, c'est celle d'entretenir les jeunes de milieux populaires, de milieux moins cultivés, de milieux moins militants, et ainsi de suite, Dans un deuxième cercle de 5, le supporter, et je finis là-dessus, ce terme n'est pas de supporter, je le répète, il n'est pas innocent, puisque je l'emprunte à l'étude du militantisme à droite, et il entérine une séparation indépassable entre les spécialistes et les profanes, entre les gouvernants et les gouvernés.
Merci beaucoup pour ces deux interventions. Je passe la parole à la salle, voir s'il y a des questions pour Camille Hamidi ou pour Raphaël Chalier. Non, alors pour lancer peut-être la discussion, je vais poser une question. Alors on l'a vu, hein, ces deux communications qui sont assez différentes, hein, puisque celle de Camille Hamidi est plutôt un plaidoyer pour la réanalyse, hein, qui permet de mieux saisir le discours des acteurs des milieux populaires. La seconde, celle de Raphaël Chalier, interroge les rapports des jeunesses communistes aux classes populaires. Et en réalité, ce qu'on voit très bien dans ces deux textes, c'est l'attention qui est portée aux catégorisations des acteurs, à la manière dont ils pensent les activités sociales, mais aussi leurs activités sociales. Donc je vais poser deux questions très très générales, hein, vous y répondez comme vous voulez. La première question que j'avais à vous poser, c'était en quoi ce que vous décrivez, à savoir d'un côté une mobilisation multiforme et plurielle de l'ethnicité dans le discours des enquêtés, pour vous Camille, pour vous Raphaël, des formes de mobilisation moins partisanes, moins doctrinales, plus ludiques parfois, peut être considérée comme des politisations émergentes. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous avez étudié? Vous parliez, Camille, dans votre papier, on parle d'ethnicisation croissante de la société. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous étudiez, ou est-ce que ce sont la manière dont les sciences sociales regardent les acteurs, les pratiques, qui évoluent? Et en particulier, je me posais la question, puisque vous avez tous les deux des méthodes d'enquête, là pour le coup, assez différentes, et même si elles se recoupent parfois, est-ce que c'est la méthode d'enquête qui donne un nouveau regard sur les pratiques des acteurs et la manière dont ils se pensent ou dont ils catégorisent les activités sociales? Ça, c'était ma première question. Et puis, la seconde question que je voulais vous poser, mais qui est peut-être, vous y avez déjà partiellement tous les deux répondu dans vos communications, c'était qu'est-ce qui est politique dans ce que vous avez étudié? Et puis, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est objectivement politique, et plutôt, est-ce que le chercheur doit décider ce qui est politique ou pas? Ou est-ce que c'est dans le discours même des acteurs que l'on doit déceler le politique? Voilà, c'était mes deux grandes séries de questions pour lancer un petit peu la discussion.
Je vais d'abord peut-être répondre à la... deuxième question sur qu'est-ce qui est politique, est-ce que c'est le chercheur qui décide? Oui. En écoutant par exemple la présentation de Raphaël, j'ai trouvé très très intéressant, et c'était aussi le cas dans la présentation de Catherine hier, le fait que vos acteurs, ils ont une réflexion très explicite sur qu'est-ce que c'est qu'une activité politique, est-ce qu'on le fait ou pas, et c'était aussi la discussion que lançait Karima Berich hier sur... voilà comment on négocie le fait de proposer des activités moins politiques en échange d'autres activités plus politiques, etc. Moi, par exemple, dans le travail que j'avais fait sur les associations, comme il y avait, pour plein de raisons, des normes quand même qui étaient plus de ne pas avoir un discours politisé, partisan et explicite, de travailler juste sur les catégorisations par les acteurs de leur activité comme étant politique ou pas, c'était pas très intéressant, c'était vidu, hein, ils faisaient de la couture, ils faisaient pas de politique, et puis voilà quoi. Donc, du coup, je trouve qu'il y a des cas où ça a un vrai intérêt de travailler en tant que tel sur la façon dont les acteurs se positionnent par rapport aux politiques, d'autres cas où ça a moins de sens. Après... Et c'est aussi en écho à la discussion lancée hier un peu par Catherine suite à la question de Lorenzo. Il me semble que quand on dit finalement moi je donne pas de définition de la politique, je me contente de critères pour le repérer, en fait c'est un peu spécieux parce que derrière il y a une définition. Si on pense que la politique c'est expliciter des clivages, c'est une certaine conception de la politique, et d'ailleurs qui fait que si on travaille sur des, c'était ce que Jacques Lagroix disait, si on travaille sur des milieux catholiques, etc., cette façon-là de définir la politique, ça marchera pas parce que de fait on l'exprime autrement et on n'assume pas le clivage frontalement. Donc je pense qu'après, il faut quand même assumer que si on veut travailler sur la politisation, on a une définition qui correspond à une conception de ce qu'est la politique. plutôt que de juste dire bah, c'est simplement des outils, des points de repère, etc. En fait, il y a une définition derrière. Et par contre, je trouve ça intéressant de l'expliciter, puis d'avoir différents types de définitions. Moi, je trouve que c'est important de continuer à travailler sur la définition institutionnelle de la politique, parce que c'est quand même un point de repère pour beaucoup d'acteurs dans le monde social, et puis aussi un certain nombre de chercheurs parmi nous. Et du coup, c'est intéressant de voir ça aussi. Mais moi, je pense par ailleurs important de travailler aussi sur une politisation plus élargie, parce que sinon, notamment sur les classes populaires, on ne voit pas grand-chose, alors que je pense qu'il y a des choses à voir. Quoi. Par exemple, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui me dit 48 fois, bah, je ne sais pas, dans l'entretien, ouais. À la fois, elle dit ça, et si on a juste une définition de la politique en termes de compétences politiques, eh ben voilà, on peut dire qu'elle n'est pas compétente, et puis c'est fini. Ça n'empêche pas qu'elle trouve qu'il y a des trucs qui sont injustes, qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas, et puis qu'elle a l'impression qu'elle est dans un groupe de la société et pas dans un autre. Quoi. Donc, il me semble que sinon, on le rate. Donc, voilà, moi, je serais pour plutôt avoir une approche qui combine un peu ces différents éléments. Et après, sur la deuxième la première question que tu posais, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Pour l'instant, j'aurais du mal à répondre parce que voilà, c'est le but de tout ce travail de réanalyse. Quand j'aurai travaillé notamment sur l'enquête du début des années 90, j'espère que je pourrai revenir et vous donner la réponse. Je pense bien qu'il y a à la fois des choses qui ont changé dans le discours des acteurs et des choses qui ont changé dans la façon dont les chercheurs le regardent. Hein. J'imagine bien que c'est un peu des deux. Mais voilà, je voudrais essayer de creuser un peu plus. Par contre, je pense pas que ça soit vraiment une question de méthode d'enquête. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, si je reprenais les données que j'avais trouvées dans ma thèse sur des associations de jeunes issus d'immigration. Je n'avais pas du tout spécialement travaillé sur la question ethnique à ce moment-là, mais je pense bien que si je le refaisais, donc sur des données ethnographiques, je pourrais tout à fait trouver des choses équivalentes à ce que je trouve là. Quoi. Donc,
D'accord. Alors, sur le premier aspect, est-ce que c'est nouveau ? Alors, je vais a priori faire une réponse assez tranchée. Quand on regarde les débats qu'il y a eu au moment de la fondation des Bourses du Travail, les bourses du travail au début du siècle, au sein du mouvement ouvrier, on voit qu'il y a des débats très durs et très sévères entre d'un côté un pôle plutôt concrétiste qui se dégage, qui va valoriser les bourses du travail, par exemple une partie de l'anarcho-syndicalisme et aussi du socialisme, ce qui deviendra le socialisme municipal, qui défendent clairement une politisation par en bas, par les pratiques, par la fanfare, qui progressivement socialise à la politique. Parce que la fanfare, elle va jouer en soutien pour les mineurs qui font grève. Et de l'autre, les positions comme celle des guédistes, qui disent « c'est pas de la politique, vous dépolitisez le mouvement ouvrier ». A priori, donc, le débat ne date pas d'hier. On le retrouve dans les discussions sur les contre-cultures. Est-ce que les contre-cultures, c'est de la consommation alternative? Ou est-ce que les contre-cultures, c'est l'amorce du monde de demain, de la société sans classe et sans domination? Elles se retrouvent de manière souterraine, on les retrouve dans toute l'histoire du mouvement communiste, et notamment du communisme municipal. Donc c'est une problématique qui ne date pas d'hier. Toutefois, bien sûr, je ne veux pas forcer le bâton, il y a aussi une manière de retraduire ce débat-là en fonction des enjeux d'aujourd'hui, de nouvelles problématiques qui émergent, par exemple la question des jeunes des quartiers populaires, des catégories qui viennent remplacer d'autres, le fait, il y a malgré tout des petits... Et puis il y a aussi un impératif, la concurrence, on va dire... Dans le cas de la JC, la concurrence d'une gauche mouvementiste, de tous les mouvements spontanéistes, ce qu'on appelle parfois les totos, et ainsi de suite, qui va les pousser, mais aussi le succès du mouvement associatif, altermondialiste, qui va les pousser encore plus dans ce sens. Par ailleurs, concernant maintenant la question des méthodes d'enquête, sur la question de ce qui est politique et ce qui ne l'est pas. Grosse, grosse question. Alors, moi je souscris beaucoup à ce qu'a dit Camille sur le fait qu'il faut articuler plusieurs niveaux, peut-être pour d'autres raisons, y compris éthiques. En effet, et qui sont en même temps des raisons analytiques. En effet, le souci, le postulat de l'égalité, c'est quelque chose de tout à fait valorisable et auquel j'adhère complètement sur un sens civique. Mais le problème, c'est que le postulat de l'égalité, pour moi, il ne doit surtout pas nier les rapports sociaux qui sont multiples et qui, pour moi, existent incontestablement. Enfin, le moindre travail de micro-objectivation d'une réunion militante montre qu'il y a des rapports sociaux dans la distribution de la parole, dans le fait de savoir qui parle, quelles sont leurs origines sociales, quel est leur genre, et ainsi de suite. Et du coup, pour moi, il faut, enfin, il y a, ça renverrait plus à cette question aussi d'inégalité du pouvoir, telle que l'a posé déjà Weber, notamment du pouvoir comme ressource. Effectivement, il y a des définitions, il y a une politique profane, il y a une politique des non-spécialistes, il y a énormément de formes qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, et malgré tout, les dominants et les institutions balayent d'un revers de la main. Et du coup, l'inégalité, elle existe de fait. Vous et moi, on a très peu de marge de manœuvre objective pour participer à la résolution du conflit israélo-palestinien. Un chef d'État, que vous le vouliez ou pas, il a plus de pouvoir que vous et que moi.
Alors, j'ai deux prises de parole. Je vais évidemment vous demander d'être de plus en plus succinct pour être dans les temps. Merci.
Alors, Kevin Vaché, je suis doctorant au CRESPA GTM. J'avais deux petites questions pour Raphaël. Je vais essayer de les faire succinctes. La première question, elle est par rapport à toutes les catégories que tu as utilisées pour décrire les jeunesses communistes, notamment quand tu opposais les concrétistes aux idéologues, quand tu parlais des staliniens, etc. Tu as une tendance dans ton intervention, qui moi me parle plutôt, à beaucoup utiliser et réutiliser les catégories militantes qui sont mobilisées par les membres de la JC. Je voulais savoir si tu les interrogeais au-delà de ça, au-delà du fait de les réutiliser pour redéfinir les clivages qui existent entre eux, et si du coup derrière ça, on pouvait questionner un petit peu, je sais pas, les propriétés sociales des personnes qui les utilisent, qu'est-ce que ça révèle de manière sous-jacente aussi sur la composition de ces groupes, d'autres choses en fait que le clivage idéologique qui peut exister au sein de la JC. Et ma deuxième question, c'est pour te faire sortir un petit peu du cas JC. Ta thèse est une comparaison entre des terrains UMP, FN et JC. Et je voulais savoir si sur cette question de l'euphémisation du politique, tu retrouvais des choses similaires. Parce que tu disais au début que c'était beaucoup lié à la question de l'organisation de masse que pouvait être la JC. J'aurais tendance à me dire qu'il y a des exemples quand même un peu similaires aussi à l'UMP ou FN. Je ne sais pas si tu le vois.
Si je donne la parole à l'autre question, hein, pour que vous les... Oui. Il y en aura peut-être d'autres aussi.
Merci. Lorenzo Barostella, chargé de recherche CNRS au CSU. Moi, c'est plus qu'une question, une remarque, et partager des interrogations sur la question de la définition du politique. Je pense que c'est quelque chose qui est central. On n'a pas tranché, mais je pense qu'il y a des éléments de débat. D'abord, je voudrais rappeler que c'est une super vieille question pour Sciences Po. Ça fait très très longtemps que la question est posée. Par exemple, il y a les vieux textes de Jean Leca des années 70, le repérage du politique, c'est classique, tout est politique ou rien n'est politique, où sont les limites, etc. Et on n'a toujours pas tranché, après ça dépend de ce qu'on en fait. Je suis assez convaincu par la réponse de Catherine Neveu hier, même si je ne suis pas du tout sur la même position, sur le fait qu'on puisse travailler sans définir a priori le politique. C'est très intéressant, notamment dès lors qu'on... Enfin, ça laisse sortir des choses. Et dès lors qu'on s'intéresse aussi aux définitions profanes, je mets des guillemets, de ce qu'on entend par politique, qui ne sont pas les définitions des chercheurs, encore moins du monde politique. Simplement, je voudrais émettre un doute là-dessus quand même, au sens où s'il y a tout un ensemble de définitions, s'il y a tout plein de critères qu'on peut utiliser, et que du coup on ne mesurera pas les mêmes choses sur les méthodes d'enquête et ce qu'on veut travailler, ça ne veut pas dire que le monde social est relativiste. C'est-à-dire que toutes les définitions ne se valent pas. Il y a des luttes de définitions, des définitions qui sont dominantes, d'autres pas. Donc il faut quand même ça l'objectiver à un moment. On ne peut pas, en tant que chercheur, se dire on n'est pas à l'extérieur du monde social. Telle est ma définition personnelle du politique. C'est vachement intéressant, c'est vachement fécond. Donc moi, je vois de la politique comme ça. Sinon, on est tout de suite dans le normatif. Et c'est insatisfaisant, c'est problématique. Il y a une posture militante à définir, avoir une définition plus ou moins large du politique. La définition dite classique du politique en Sciences Po, par exemple, la définition weberienne, l'activité politique, c'est la lutte pour le pouvoir sur l'État. C'est une définition dite restrictive, je mets des guillemets. Elle pose des problèmes, en même temps, elle entérine un processus historique de construction d'une activité relativement autonome, qu'on le veuille ou non, qu'on appelle la politique. Certes, c'est qu'une partie de la politique, mais c'est la définition dominante. Donc à partir de là, comment en objectif, ce qui est la définition dominante, on peut mettre des guillemets si on n'est pas dans ce type de cadre théorique, et les autres types de définitions qui peuvent poser un problème de flottement assez important, d'autant plus quand on est chez des chercheurs qui sont dans des positions militantes, qui sont dans des organisations et qui ont une vision parfois... très politisantes des catégories populaires et qui ne veulent pas insister sur leur dépossession pour d'autres raisons, soit la dérive populiste. Donc, il faudra quand même faire attention sur ces luttes de définition. Je ne dis pas que tout est politique ou rien ne l'est, mais il y a quand même une hiérarchie dans les définitions.
Dernière.
Après, j'aurais plein de questions sur les deux présentations que j'ai trouvées extrêmement riches, y compris sur les méthodes d'enquête et comment on... En revisitant des enquêtes précédentes, on peut porter enfin comprendre autrement d'autres choses. Donc ça, mais bon, là, je voudrais me concentrer sur la contribution à la discussion qui s'amorce. D'une part, il me semble pas que, alors je dirais pas le postulat de l'égalité, parce que si ça fait référence à ce que j'ai évoqué hier en conclusion sur Rancière, c'est pas un post, enfin c'est à la fois un postulat, mais c'est un pari. Et ce pari de l'égalité n'implique absolument pas d'oublier les rapports de domination qui existent dans le monde réel. Il implique il a l'avantage, me semble-t-il, d'obliger à les objectiver, justement, et à pas les ignorer. J'aurais tendance à penser que c'est voilà, que ça n'équivaut absolument pas à une mise sous le boisseau ou à une occultation des rapports de domination réels qui existent dans les interactions très concrètes entre les gens. Après, sur la question de la définition du politique et la prise en compte que, de fait, il y a des définitions plus légitimes ou dominantes dans le monde réel, social, peut-être que ce qui pourrait être utile aussi, du coup, comme outil d'analyse ou de compréhension ou de travail, c'est la notion de keyword de Raymond Williams dans les Cultural Studies. Moi, je l'ai mise au travail sur la notion de citoyenneté. Et je trouve ça très fructueux parce que c'est une posture qui dit il n'y a pas de bonne définition. L'objectif des chercheurs en sciences sociales, ce n'est pas de trouver la bonne définition. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'une définition émerge, se constitue, s'impose, domine, est plus légitime à un moment donné. Et là aussi, on n'est pas obligé de choisir entre une définition objective et ou une occultation des rapports sociaux de domination. Je pense qu'on peut tenir les deux à la fois. Et l'outil de Raymond Williams et des Cultural Studies me semble un excellent outil pour éviter cet écueil de devoir choisir entre... Enfin, quand même, il y a de l'objectif qu'on est bien obligé de prendre en compte et qui n'est pas une occultation, loin de là, des rapports de domination, parce qu'effectivement, il y a des luttes pour imposer la bonne définition ou la définition légitime.
Raphaël, vous voulez répondre brièvement ?
Brièvement, oui, mais je vais essayer, c'est un exercice difficile. Bon, du coup, je réponds déjà à la question de Kevin, qui était plus centrée. Sur l'euphémisation du politique à droite, il n'y a pas forcément de manière aussi systématique des politiques, enfin une stratégie d'euphémisation et de politique sans en avoir l'air. Mais malgré tout, eh ben en fait, je pense que c'est plutôt dans tout milieu partisan populaire, on va retrouver le primat des pratiques conviviales et de l'importance des micro-pratiques, mais du fait que c'est très important de se réunir, comme le disait hier Denis, autour d'un repas plutôt qu'en réunion. Qu'il faut des formes de débat informel, les réunions d'appartements où on débat de manière informelle plutôt qu'un tour de parole avec des prises de parole de style universitaire. Et l'autre aspect que je verrais d'euphémisation du politique, c'est la manière dont les militants de terrain, de tous les partis en général, déploient des trésors d'imagination pour montrer qu'eux ne sont pas des politiciens. Ça peut sembler paradoxal, mais ils se dissocient très clairement. Ils ont bien conscience que personne n'aime les politiciens. Donc tout le jeu, y compris pour les élus locaux et pour les candidats locaux, c'est d'expliquer « à nous, c'est pas pareil ». Nous, on est des acteurs de terrain, avec la mise en scène de l'autochtonie, ainsi de suite, qui renvoie aussi, il me semble, à un travail de dissociation. Donc on ne veut surtout pas être amalgamé aux politiciens, alors qu'on fait de la politique. Sur la question, alors... des catégories sociales qui ne sont pas exclusivement idéologiques. Dans la JC, c'est complexe. On ne peut pas réduire, l'opposition entre concrétistes et orthodoxes, enfin entre modernisateurs et orthodoxes, entre concrétistes et idéologues, à simplement une question les uns sont des petits bourgeois et les autres non. Par exemple, les chiffres qui ont été produits par Clément Lepiliez sur la Fédération du Nord montrent une composition assez similaire à celle de la JC 93 que j'ai produite. Alors que ces deux, ils sont radicalement opposés idéologiquement, mais c'est grosso modo les mêmes bases sociales. Après, la question qu'il faudrait poser, c'est qui, au sein du groupe militant, porte les options les plus concrétistes et les moins idéologues, mais pour le coup, ça serait vraiment au sein même du réseau militant local. Et après, il y a aussi toute la question des configurations communistes et du rapport au parti, et ainsi de suite. Et je ne vais pas rester très longtemps sur la question fleuve, même si elle est passionnante. Mais après, enfin, c'est toute la tension, il me semble. Enfin, sur moi, il y a un texte qui m'inspire quand même beaucoup, même s'il n'est absolument pas assumable, de par le parcours de son auteur. C'est le texte de Michels, sur la loi d'airain de l'oligarchie. Et d'un côté, il me fascine, parce que d'un côté, il dit la tentation, enfin, il pousse jusqu'au bout ma propre tentation et mes propres ressentis les plus sombres. C'est de me dire, bah, de toute façon, c'est foutu, tous les partis, c'est intrinsèquement des lieux de domination, d'exploitation du prolétariat militant, que ça de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais malgré tout, au bout d'un moment, ça devient... Enfin, c'est vrai qu'une fois qu'on a objectivé les rapports sociaux, on est bien obligé de chercher des lignes de fuite et des formes de marge de manœuvre. Enfin, il faut bien qu'il y ait des potentialités de lignes de fuite ou de résistance. Ou alors, ça sert à rien. Enfin, objectiver les rapports sociaux, si les rapports sociaux, c'est naturel, ben... Oui, ben c'est naturel, quoi. Et ce qui ne veut pas dire qu'ils se valent, hein, et qu'il n'y a pas des luttes de, enfin, qu'il n'y a pas des degrés d'hierarchisation objectifs.